Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en ce début du mois de juin où nous allons aujourd'hui essayer de vous parler de ce qui se passe un petit peu aux États-Unis et pourquoi ça commence à nous faire un peu peur et à nous faire sentir un petit peu le renard.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que vous savez que j'ai pas la plus grande admiration pour Keynes, mais il avait ce talent qu'ont les Anglais de faire des bons mots, vous savez, des trucs. Et quelqu'un lui reprochait un jour d'avoir changé d'avis. Il avait dit qu'il fallait acheter, puis je ne sais pas quoi. Et il avait répondu, « Quand les faits changent, monsieur, je change. Qu'est-ce que vous faites ?»
Ça me paraît assez évident.
Et la plupart des gens, si tu veux, quand ils sont partis sur un côté bullish ou bearish, si tu veux, ils ont du mal à changer. Donc, l'une des difficultés dans ce métier, c'est justement de changer d'opinion. Donc, en ce qui concerne les États-Unis, ce que je faisais, c'est que j'aimais, comme tout le monde le sait, j'aimais bien Trump. Je l'aime bien toujours d'ailleurs. Et je voulais voir ce qu'il allait faire. Donc, vous remarquerez que dans le portefeuille de l'Université de l'Épargne, pour ceux qui le suivent, on n'a rien aux États-Unis, si ce n'est les valeurs énergétiques, pour des raisons qu'on a développées, etc. Donc, je n'avais rien aux États-Unis. Mais je regardais les États-Unis avec intérêt en me disant, si Trump fait les bonnes politiques, il faudra peut-être qu'on y retourne. Tu vois ce que je veux dire? J'étais plutôt passif, pas agressif, en quelque sorte. J'étais juste passif en disant, bon, je regarde, puis je vois. Et alors, ce qui s'est passé depuis que les deux ou trois premiers mois ont été très bons avec le discours
de J.D. Vance
à Munich, qui expliquait qu'ils allaient retourner vers la forteresse américaine. Et puis, un certain nombre de... Il avait lâché Musk pour faire baisser le poids de l'État dans l'économie. Donc, un peu de Milley, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je me disais...
Bon, un peu de libéralisme classique, baisse de dépenses de l'État,
dans les régulations. Tout ça, ça me paraissait très bien.
Dans le gras du mammouth.
Et puis, il y a deux camps dans les équipes Trump, à l'évidence. Il y a le camp des gens intelligents, Musk, J.D. Vance, Kennedy, Tulsi Gabbard, etc. Et puis, il y a le camp des crétins, et qui est mené par un gars qui s'appelle Navarro, qui est protectionniste, et qui est, lui, un chaud partisan, à l'évidence, de l'Empire américain. Donc, il faut au contraire, les étrangers sont forcés d'acheter aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités pour placer leur argent. Tu vois, comme bon, tu vois, là, une bonne nouvelle. Ça rend mon métier inutile, tu vois, je veux dire. Bref, persuadé que l'exception américaine est une constante, qu'elle ne va pas changer. Et que donc, il faut taper sur les gens et les forcer à se mettre dans l'ordre. Quoi. Et donc, je l'ai vu arriver avec beaucoup de consternation. D'abord, toute cette histoire de folie de droits de douane qu'on met, qu'on enlève, qu'on remet, etc. Donc une espèce
qui fait pas très sérieux. On crie très fort et puis bon, on a bien compris le jeu de bonneteau de Monsieur Trump qui consiste à faire beaucoup de bruit.
On l'appelle taco. Tu sais, le gars, tout le monde fait
des astuces.
Non, le taco, c'est le gars si tu veux qui dit je vais faire mal et puis au moment où il faut arriver, c'est toujours le premier à lâcher quoi. Donc si tu fais des menaces aux gens. C'est comme Robespierre quand il a dit qu'il allait guillotiner quelques personnes parce que il fallait se débarrasser des planches pourries. Il n'a pas nommé ces personnes. Et si tu dis je vais guillotiner des gens, tous les gens qui disent c'est peut-être moi, ils vont se mettre ensemble et c'est toi qui vas être guillotiné. Tu vois, c'est un peu ce qu'il fait. Il fait des menaces à tout le monde. Et finalement, les gens se disent mais la prochaine fois c'est moi. Par exemple, ils avaient négocié il y a quelque temps, je crois dans le premier. Mandat de Trump, des accords avec les constructeurs automobiles japonais où il y aurait 15% d'impôts. Les Japonais n'étaient pas d'accord, mais enfin, de droits de douane. Et puis, ils ont accepté parce qu'il fallait accepter, puis ils n'avaient pas vraiment le choix. Puis d'un seul coup, ils veulent recoller 25 ou 30% alors qu'ils avaient négocié de bonne foi. Donc les Japonais sont très très fâchés. Et de façon générale, c'est jamais une bonne idée de fâcher les Japonais parce qu'ensuite ils deviennent têtus, tu sais. C'est pas des.
Et son approche avec la Chine n'était pas forcément non
la
plus.
La plus intelligente.
C'est-à-dire que tu peux peut-être play hardballs comme ça avec l'UE, oui. Parce que ce sont des crétins, mais la Chine. Et
surtout quand là, tu es très dépendant de la Chine.
Ouais, voilà.
Très bon. Et qui sont un peuple. Qui est là depuis 5000 ans et qui, comme il dit, pendant 4800 de ces 5000 ans, vous n'étiez pas là, quoi. Donc on a peut-être un peu.
On ne vous a pas attendu pour commencer.
C'est un peu ça. Donc, d'un seul coup, je vois arriver une espèce de retour de l'Empire américain comme ce que veut faire M. Trump. Alors, d'abord, c'est nouveau. Et ensuite, ce que j'essaie de montrer dans le papier de cette semaine, que je ne saurais trop vous recommander de lire d'ailleurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que moi, l'analyse que je faisais, c'est s'il prend les bonnes décisions, couper les dépenses inutiles de l'État, réduire les dépenses militaires, revenir vers les États-Unis, les gens seront d'accord pour financer la transition. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils achèteront des actifs aux États-Unis, il n'y aura pas de problème de financement pour le budget, etc. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le budget qui vient d'être présenté, c'est un budget qui est complètement affolant, parce que d'abord, les déficits budgétaires remontent encore, et surtout, on dépense, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de milliards de plus pour la défense, qui est par définition une forme de dépense qui a une productivité très faible, quoi, parce que si j'ose dire, ou tu t'en sers et c'est pas une bonne nouvelle, ou tu t'en sers pas et ça sert à rien, quoi. Donc, comme les États-Unis dépensent déjà 10 fois plus que les 10 autres, ils dépensent autant que les 10 autres pays mis ensemble derrière. Donc, on se dit, ils n'ont pas besoin encore de dépenser du pognon, quoi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut faire un petit retour sur des fondamentales. Vous savez, quand il y a un pays qui vit au-dessus de ses moyens, en général, il a un déficit budgétaire. Bon. Alors ce déficit budgétaire peut être financé par la population, comme c'est le cas au Japon. Là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les gens préfèrent acheter des obligations que payer des impôts. C'est pas gênant, ça n'a pas d'effet dans le temps. Mais si ce déficit budgétaire est financé par l'étranger, on l'a sûrement expliqué, à ce moment-là, ça veut dire que tu piques de l'épargne des étrangers pour vivre au-dessus de tes moyens.
Oui.
Et souvent, au bout d'un certain temps, ça se traduit par, du coup, tu deviens de moins en moins compétitif et ta balance commerciale devient déficitaire. Tu as des déficits extérieurs monstrueux. Et donc, tu as ce qu'on appelle les doubles déficits qui apparaissent, c'est-à-dire un déficit budgétaire plus un déficit des comptes courants. Et historiquement, à chaque fois qu'un pays a dépassé 10% de double déficit, il y a l'autre qui ronfle.
On n'est pas aidé. Hein.
On n'est pas aidé. Dis-vous, arrête.
Moi qui ai du mal à me concentrer quand il y a des bruits extérieurs, si tu veux, là c'est... Tu abuses, hein. Oui.
Oui. Voilà. Et donc, quand vous avez ces doubles déficits dépassent 10% du PIB, en général, les types du FMI commencent à prendre leur billet d'avion, tu vois, en disant « j'arrive, vous inquiétez pas, je vais vous aider, quoi ». Et ils nous ont déjà assez aidé, en général, les FMI, donc t'as pas envie de les voir arriver. Comment ? Aujourd'hui, les États-Unis sont à 11%.
Ouais.
C'est-à-dire que... Et avec aucune volonté politique exprimée et crédible de réduire ces 11% dans les années qui viennent. Ce qui était le cas dans l'analyse précédente que j'avais faite. On disait qu'ils vont passer à 11, puis à 8, puis à 7, et ça va...
Alors, certains disent que l'idée, ça serait de... Enfin, M. Bessette a exprimé que l'idée, ça serait quand même de faire croître le GDP...
Voyons.
Voilà, mais si les hommes politiques savaient faire croître la croissance...
GDP, ça voudrait dire une baisse des réglementations considérables aux États-Unis. Puis on a bien vu que les coupes, Monsieur Musk a fait ce qu'il a pu, et puis quand il a commencé à essayer d'aller tailler dans le gras, on a vu que sa popularité a baissé et qu'on l'a renvoyé à ses chères études, quoi. Donc ils sont très copains, ils restent amis, mais oui, bien entendu, mais voilà, on vous en donne un autre. Mais la réalité, c'est que on a interrompu celui qui était là pour couper les dépenses qui servaient à rien, quoi.
Voilà, ouais.
Donc ça, c'est une autre réalité. Donc ça veut dire que les États-Unis sont en train d'essayer de passer en force en disant aux autres, vous serez forcés d'acheter mes obligations. Mm-hmm. Vous n'avez pas le choix. Et si vous n'achetez pas mes obligations, d'ailleurs, je vous empêcherai de vendre des choses chez moi.
Oui.
Ce qui...
Donc, en vrai, on va se retrouver avec un chantage.
Mais on a un chantage.
Voilà, vous achetez ma dette, voilà. Les obligations américaines, voilà. Ou alors vous avez 250% de droits de douane pour...
Et alors, ce qui va se passer, c'est que justement la Chine, qui n'est plus qu'à 10 ou 12% d'exportation, d'exportation américaine vers les États-Unis, ils étaient à 20 il y a quelques années, 25.
Ils ont beaucoup réduit.
Ils se préparent depuis 5 ans qu'on leur a fait le coup sur les semi-conducteurs, parce qu'il faut se souvenir qu'à 5 ans, les États-Unis ont décidé qu'ils n'allaient plus vendre les meilleurs semi-conducteurs à la Chine parce qu'elles se développaient trop vite et trop bien.
Oui. Donc, on avait fait une émission sur les semi-conducteurs et on avait parlé un peu de ça.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis s'arrogent le droit de vous forcer à acheter leurs dettes. Et que si vous êtes trop compétitif, à la place de dire réévaluer votre monnaie, ils vous vendent plus leurs produits de haute technologie.
Alors nous, ça nous concerne pas.
nous, on n'a pas grand chose. Si on a monsieur, comment il s'appelait, celui qui a foutu en l'air Atos là, comment il a.
Thierry Breton
qui
va de par tous les journaux télévisés et compagnie depuis 2 mois. Pour expliquer ce que fait Monsieur Trump et ce que doit faire l'Europe. Et je ne sais pas, il est absolument de toutes les parties.
À mon avis, il faudrait faire un attelage de choc entre Madame Lauvergeon, qu'on voit partout aussi, et Monsieur Thierry Breton, pour expliquer comment amener la France en faillite, parce qu'ils ont tellement rapidement amené leur propre société en faillite.
Je pense qu'il faut mettre Madame Loiseau aussi dans la communication, parce qu'elle a vraiment quelque chose à apporter au dossier.
Elle a quelque chose aussi à dire. Bon, revenons à l'essentiel de notre sujet. Vous vous souvenez du cercle de Valéry Pierris, etc. Ça veut dire que ce cercle de Valéry Pierris est en train de se dire, sous le leadership de la Chine, on ne peut pas intégrer les États-Unis dans notre projet de développement structurel. Puisqu'ils peuvent nous arrêter. D'un seul coup, ils décident d'arrêter de nous vendre ceci, de nous vendre cela, on ne peut pas. Ça veut dire que les obligations américaines, le cash américain, qui sont piqués à la Russie d'ailleurs en plus, quand c'était en dépôt, donc il y a aussi ce problème-là, ne sont plus investissables. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que n'importe quel pays qui a une certaine notion de sa souveraineté va dire « je ne peux plus dépendre des États-Unis, ni pour la croissance de l'économie, ni, si j'ose dire aussi, pour ma défense. Parce que le prix à payer maintenant, autrefois, c'était une espèce de pouvoir qui était plutôt gentil, maintenant, il devient brutal. Ça devient littéralement une force hostile. Et donc, tu vas pas financer les déficits budgétaires de ton ennemi, quoi, si tu veux.
Mais est-ce que tu crois que les autres pays, l'Asie va très certainement l'analyser comme ça, mais est-ce que d'autres pays vont l'analyser ainsi
Pour l'instant, oui, mais comme 60 ou 70% de la croissance dans le monde vient de cette zone de Valéry Pierris, et que c'est là qu'il y a toute l'épargne excédentaire.
Oui.
C'est là qu'il y a, c'est eux qui auront, c'est pas la France qui va financer le déficit budgétaire américain. Elle ne va pas réussir à financer le sien. Donc, ça veut dire que tu peux continuer à avoir des belles valeurs américaines, ça c'est autre chose, mais tu peux pas considérer qu'avoir des obligations américaines ou du cash, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en quelque sorte, la qualité juridique du contrat que tu passais avec les États-Unis quand tu leur achetais les obligations a baissé. Puis à cause de l'histoire de la capture des réserves russes, et également la capacité que tu envisages des États-Unis pour rembourser cette dette, est en train de s'effondrer aussi. Donc tu te dis, quand tu achètes quelque chose, il y a rentabilité du capital, bon, mettons le taux d'intérêt que tu touches, et le return of capital, le retour de ton capital, c'est-à-dire le remboursement. Ce que j'essaie de dire, c'est que le remboursement, il faut commencer à faire des hypothèses extrêmement, extrêmement optimistes pour que ça puisse être remboursé. Et si je regarde les autres pays du monde qui sont dans la même situation que les États-Unis, il y en a deux qui frappent, c'est l'Angleterre et la France, qui sont dans une situation tout à fait similaire. La France est à 9% dans son double déficit à peu près. Donc ça veut dire que les obligations américaines, françaises et anglaises, ne peuvent plus être tenus dans un portefeuille raisonnable, quoi. Ben, ça doit faire, je sais pas, 30 ou 40% du marché obligataire mondial. Ça.
Bien sûr.
C'est absolument gigantesque. Donc, c'est une décision absolument gigantesque. J'imaginais pas que je serais amené à la prendre dans le cours de ma carrière, mais apparemment, c'est le cas.
Est-ce que tu penses que les Chinois, aujourd'hui, et les Japonais détiennent énormément d'obligations américaines?
Alors, ce qui s'est passé, encore une fois, et on en a souvent parlé ici, les Japonais, c'est eux les plus gros détenteurs.
Parce qu'on a vu que...
Ils commencent à être agacés. Hein.
Oui.
Ils commencent à être agacés. On a bien vu quand il y avait eu cette crise, tu sais, le mercredi, là où d'un seul coup le marché obligataire commençait à se péter la gueule. Les rumeurs disent que c'était les Japonais qui vendaient, pour faire comprendre à Trump que ça suivait. D'ailleurs, Trump avait tourné tchèque, comme ça. Donc, la Chine, elle a fait beaucoup mieux, puisqu'on en a parlé. Elle a mis toute une partie de ses dollars en dollars de Hong Kong. Et la contrepartie de ces dollars qu'ils ont gagnés, est bien sûr dans les réserves de change de la Banque centrale de Hong Kong. Donc ça voudrait dire que les États-Unis doivent piquer les réserves de change de la Banque centrale de Hong Kong, alors ce qui serait vraiment une déclaration de guerre contre tous les gens qui ont des dollars. Quoi. C'est parce que les gens de Hong Kong, ils sont plutôt gentils, enfin ils n'ont jamais attaqué personne, ils n'ont pas d'armée. Et je sens bien aussi que, et là ça m'ennuie beaucoup aussi, c'est que les États-Unis recommencent à financer ou à faire des bruits de bottes. Je veux dire, et je recommence à parler de Taïwan.
J'ai vu ça hier.
Qui ne demande rien à personne.
Il ne s'est absolument rien passé. Et non. Tout à coup, on nous reparle de Taïwan, alors que, encore une fois, on en a parlé, mais on ne peut pas... en tout cas, avant 3 ans, avant qu'il y ait des élections qui arrivent à Taïwan, cette question ne peut pas être posée.
Et ensuite, comme le dit la Chine, elle dit toujours, les accords que nous avons avec les États-Unis depuis toujours... précise que la question de Taïwan est une question de politique intérieure. Taïwan n'est pas un pays indépendant, c'est ce que les États-Unis ont acheté, donc nous n'intervenons pas militairement, ils continuent à se gérer comme ils veulent, mais toutes les relations Taïwan-Chine, c'est des questions comme entre le Minnesota et Washington.
Voilà, donc les États-Unis n'ont pas à intervenir, il est bien évident que Taïwan...
Nous, on n'attaquera pas, mais à condition que les États-Unis cessent de nous casser les pieds. Quoi.
Voilà, et qu'ils considèrent la souveraineté inhérente à ces territoires. Sachant qu'évidemment, la question de Taïwan est toujours prégnante, parce que c'est ces histoires de terres rares, c'est ces histoires aussi d'hypertechnologie qui sont...
C'est là où il y a les meilleures usines, etc.
Voilà, donc, de semi-conducteurs.
Mais je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, on nous reparle de Taïwan.
Hier, c'est sorti. Donc, c'est...
Il y a un département dans la CIA qui est connu, hein, je retrouve le nom si ça intéresse les gens, qui a un budget de 600 millions de dollars pour que les journaux, comme le Wall Street Journal, Le Monde, etc., publient des articles favorables aux États-Unis et défavorables aux ennemis des États-Unis. Donc j'aimerais bien d'ailleurs que les journaux, quand ils reçoivent ces dollars, nous expliquent pourquoi ils ont reçu ces dollars. Par exemple, le Wall Street Journal en a reçu plein, le New York Times en a reçu plein, et j'aimerais savoir si Le Monde en a reçu, par exemple. Ça m'intéresserait beaucoup. Ça peut être par l'intermédiaire d'ailleurs de USAID, tu vois, qui a été, ou de je ne sais où, ou de certaines sociétés qui sont reliées à M. Soros, parce que tout ça c'est dans le même panier de crabe. Donc, je vois pousser à nouveau des espèces de tentations d'une guerre avec la Chine est inévitable. Je vois hier que, par exemple, les Ukrainiens ont été bombardés des aéroports militaires russes qui étaient à 4000 km de l'Ukraine.
Oui, j'ai vu ça.
Et pour faire des opérations comme ça, il faut avoir un soutien logistique. Bah, c'est pas des drones qui ont volé pendant 4000 km, mais c'était amené en camion, puis on a libéré ça juste près de... je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, c'est une opération qui est très très bien montée, sur 4 aéroports à la fois. Et je suis bien certain que les États-Unis étaient au courant. Et c'était la veille du jour où les négociations pour, soi-disant, un cessez-le-feu commençaient à Istanbul.
Donc, forcément, ça va moins bien marcher.
Oui, ça va mettre de l'ambiance. Mais donc, je veux dire par là, au moment où des négociations pour un cessez-le-feu commencent, c'est pas le moment d'aller bombarder les mecs. Si les négociations ont échoué, tu peux les bombarder après, mais les bombarder avant...
Bah, ça montre assez peu la bonne foi des co-belligérants, quand même. Quand tu commences à leur foutre des bombes sur la tête, tu arrives à la table des négociations dans un tout autre état d'esprit.
Donc, je sens aussi une pression. Donc, la question que je me pose, c'est... On a tous souvent et beaucoup parlé ici de l'état profond américain. Est-ce que l'état profond américain a réussi à reprendre le contrôle de M. Trump? C'est la question que je me pose en toute honnêteté.
Ou alors, tout simplement, sans qu'il ait repris le contrôle de M. Trump, est-ce qu'il est débordé?
Oui, mais c'est embêtant qu'il y ait eu cette espèce d'immense renversement de pensée diplomatique. Si tu veux, on est passé quand même de... Il faut le forteresse américain, puis paf, on retourne à l'Empire en l'espace de 5 minutes. Tu passes, c'est pas quelque chose que tu fais.
Il a peut-être que les déboires financiers qui ont commencé, c'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a eu le discours de J.D. Vance, et oui. Ensuite il y a eu donc le début de ça, et ensuite il y a eu quand même une attaque obligataire sur les marchés. Enfin,
oui, mais à ce moment-là,
et tout de suite il s'est replié.
Il s'est replié, mais ça pouvait dire j'attends, bon, bah, j'attends que les choses ça aillent mieux et tout et tout. Mais à la place de pacifier et d'expliquer que rien n'avait changé. En fait, on nous explique que l'Empire américain, c'est le seul avenir du monde. Mmh. Et c'est pas le même discours. Si tu veux, il sera perçu de la même façon en Chine, au Japon ou en Europe, etc. Donc, je me fais du souci parce que je me dis...
Est-ce que tu veux parler un petit peu de celui-là?
Oui, je vais parler de celui-là, oui. Ben ça, c'est le double déficit.
Ben oui, mais tu en as parlé, mais si tu veux
le montrer. Alors, je vais vous montrer ici le double déficit.
On va le mettre
à l'écran. Donc, ce que vous voyez ici sur le double déficit, c'est, vous voyez, en bas, vous avez le déficit des comptes courants qui est en noir. En bleu, vous avez le déficit budgétaire. Et la somme des deux, en rouge, apparaît en haut. Et vous voyez que depuis environ la flottaison du dollar, on est sans arrêt en dessous de zéro. C'est-à-dire que les États-Unis vivent. Et aujourd'hui, les États-Unis doivent littéralement consommer pour financer ces trucs-là quelque chose comme 60% de l'épargne mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que le pays là-bas, en Afrique ou j'en sais rien, à la place de bâtir des hôpitaux et tout, ils mettent 60% de son pognon, de son épargne, pour aller financer la consommation américaine. Ça me paraît insoutenable. Aujourd'hui, on arrive à un niveau, on est dans la ligne noire, c'est les fameux 10%, et chaque fois, très souvent, quand on se rapproche de ces 10%, il y a des crises financières importantes, parce que justement, ils ont du mal à financer leur déficit. Des crises financières, c'est souvent au moment des récessions, vous savez, qui sont assurées en gris là-dessus. Donc, on voit verticalement en gris. Donc, ce qu'il y a, c'est quand vous prenez ce graphique, et vous voyez qu'aujourd'hui, il est à 10%, on voit bien qu'il y a une espèce de descente inexorable aux enfers. Ce que j'espérais, c'était que Trump se rende compte que c'était une descente inexorable, qu'il était en train de prendre des mesures pour que la ligne rouge retourne vers 4, 5, 6%, ce qui aurait été accepté par les marchés en disant, on sait très bien qu'il faut 10 ou 20 ans pour faire le retournement, mais bon, ben nous, on est prêts à financer. Mais à partir du moment où il repart sur un ton belliqueux, je suis pas du tout certain. Et alors, je voudrais vous montrer un deuxième graphique.
Qui est derrière,
qui est extrêmement important, celui-là. C'est encore une fois le double déficit américain qui, cette fois-ci, apparaît en noir. Vous voyez, j'aurais dû mettre la même couleur, mais ça, moi, je suis très créatif quand il s'agit des graphiques. J'aurais dû mettre la même couleur chaque fois, mais j'ai pas pensé. Et en jaune, c'est le cours de l'or. Donc, vous voyez, l'or, vous savez, disait J.P. Morgan, John Pierpont Morgan, disait l'or, c'est de la monnaie, tout le reste, c'est du crédit. Donc, ce que font les États-Unis, là, avec leur déficit qui ne cesse, vous voyez, la ligne rouge, le noir qui monte, ça veut dire que les déficits ne cessent de monter historiquement. Ça veut dire qu'ils tirent de plus en plus sur leur crédit. Et donc, il y a de plus en plus d'obligations américaines qui sont émises, qui seront remboursées dans le futur, tu vois, quand je serai plus là, quoi. Mais ça veut dire donc qu'il y a de plus en plus de crédit, ça veut dire que la valeur du crédit va baisser par rapport à la valeur de la monnaie, puisque la quantité d'or, elle n'augmente pas. Donc quand tu vois ce graphique, tu vois très bien que quand les États-Unis se mettent à vivre de plus en plus à crédit, l'or monte, et quand les États-Unis commencent à devenir raisonnables, l'or baisse. Quoi. Tu vois, c'est, donc ben, là, ce que vient de faire M. Trump, à moins que je me sois trompé sur l'analyse, mais c'est qu'il vient de créer les conditions d'une nouvelle hausse de l'or. Puisqu'il va, il refuse que la ligne noire se remette à baisser. Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent doivent avoir 25% d'or dans leur portefeuille. Ben, j'ai aucune raison
de baisser cette...
De baisser ça, parce que, par contre...
Ça peut peut-être aussi continuer à faire monter Bitcoin.
Ça peut faire monter Bitcoin, pareil, oui. Mais par contre, ce que ça veut dire aussi, si tu veux, c'est que si je gérais un portefeuille...
Aux États-Unis. Je sais pas,
aux États-Unis, j'aurais 25% d'or, certainement, même plus. Mais si je gérais un portefeuille en Chine, j'en aurais peut-être pas.
D'or ?
D'or, parce que ils sont bien gérés, quoi. Il y a pas de... Donc ça veut dire que, implicitement, la ligne noire qui monte, donc le déficit budgétaire qui ne cesse de s'accroître et les déficits extérieurs, ben, ça veut dire que le dollar ne peut que baisser. Ils augmentent la quantité de dollars sans augmenter la quantité de richesse qui est créée à partir de ces deux dollars.
C'est mathématique.
Donc la valeur de chaque dollar ne peut que baisser. Donc, mais c'est pas ce qu'ils font en Chine. Donc en Chine, tu veux, ça veut dire aussi que on risque d'avoir un mouvement à la baisse sur le dollar très très fort. Je sais pas quand.
Mais non,
d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que la possibilité pour qu'il y ait un mouvement de baisse très important du dollar, la probabilité augmente.
Et donc, sachant que on a exactement la même. En fait, ce qu'il y a d'horrible, c'est que je me disais, moi, le dollar va se réformer. Enfin, les États-Unis vont se réformer, ils vont couper dans leur défense, dans leurs dépenses à la Milei. Ainsi, l'Europe se rendra compte qu'on est vraiment à la traîne, enfin, l'UE. Ouais. Et on va peut-être aussi aller vers des réformes de bon sens que sont des dépenses, des coupes dans les dépenses publiques. Or, si les États-Unis continuent eux aussi leur gabégie, qui sont aidés par le fait qu'ils aient le dollar et que malgré tout le dollar est jusqu'à présent une monnaie de réserve.
Cet avantage va baisser de plus en plus parce que les gens, la grande nouveauté depuis 3-4 ans, depuis la guerre en Ukraine, c'est qu'on n'a plus besoin de dollars pour acheter du pétrole.
Oui, merci à Swift, merci d'avoir fait...
Donc tout ça, c'est fini. Donc,
en fait, ils vont accélérer la dédollarisation du monde par leur inaptitude à avoir une gestion pérenne.
Par leur refus de considérer et de penser que la guerre est la solution et de forcer les gens à acheter du dollar.
En réalité, là, j'ai l'impression que Trump s'est fait renverser par les lobbies militaristes.
J'ai l'impression qu'il s'est quelque part.
Je sais pas s'ils ont des trucs sur ses enfants ou si tu vois, mais tu te.
Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et c'était le moment où on avait parlé aussi de James Comey là, qui avait dit on va vous tuer.
Tu sais, oui, oui, le truc avec les coquillages.
Le truc avec les coquillages, on va vous tuer. Et ben. Quelque part, on est en train de voir que, je sais pas comment ils ont fait passer, quel était le vrai message au fond, mais il semble bien que Trump ait changé.
Donc il va rien se passer pendant ce mandat. Enfin, à part ça.
Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là...
Ça va jouer à la marge, quoi.
Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi, qui avaient un préjugé favorable vis-à-vis de Trump. Si beaucoup de gens comme moi commencent à retourner en disant, bah non, c'est... Il s'est fait bouffer comme tous les autres avant lui, comme... Eh ben, ils auront tendance à vendre leurs actifs. Or, aujourd'hui, les actifs américains, alors que les États-Unis représentent à peine 25% du PIB mondial, doivent représenter 55% des valeurs financières dans le monde. Donc, avoir des actifs américains, c'est avoir un truc que tout le monde a et où t'es à peu près certain que maintenant les gens au pouvoir veulent te planter. Ben, ça a des conséquences, non ?
Oui.
C'est-à-dire que pour ceux qui s'intéressent aux questions d'argent, hein, ce qui est mon cas, ben, ça veut dire que avoir des actifs aux États-Unis, c'est pas bien raisonnable, quoi.
Alors que par ailleurs, on se demandait ce qui allait se passer avec toutes ces réserves de change qui étaient...
Exactement, il y a les 7000 milliards de dollars de réserves de change.
À Hong Kong là-bas. Et on se disait, bah alors, ils vont peut-être essayer à un moment de venir, ou même les Japonais, de venir acheter des terres aux États-Unis, ainsi de suite. Mais si les gens font absolument n'importe quoi et si c'est géré comme des cochons...
Tu sais, des terres, ça manque pas en Argentine, ça manque pas en Brésil. C'est
bien
ça.
Non, mais bien sûr. Mais simplement, tu te disais, bon, peut-être qu'une baraque à Miami, ou peut-être que, tu vois, bah là, tu vas te dire, bah, si c'est pour être géré comme des cochons, me retrouver avec potentiellement des taxes foncières pas possibles, ou ainsi de suite, tu te dis, autant aller en Argentine, hein, effectivement.
Ou en Uruguay, où c'est pas cher non plus, tu vois.
Ouais, ouais.
Et puis, honnêtement, quand tu vas te balader en Asie, si tu veux une jolie maison au bord de l'eau, tu as Bali, tu as la Thaïlande, tu as le Vietnam.
Pas que les Philippines, c'est très joli aussi.
Les Philippines, c'est très joli. Il y a des îles qui sont très jolies. Donc, ils avaient créé et ils ont ajouté l'insulte à l'injure en disant ben, on ne va plus accepter d'étudiants indiens et d'étudiants chinois. Alors, l'une des forces de la monnaie de réserve, c'est qu'ils sont dominants intellectuellement. C'est-à-dire que les enfants des riches dans les autres pays vont faire leurs études aux États-Unis pour être éduqués dans l'éthos, en quelque sorte, de la puissance dominante.
Et c'est drôle parce que ça nous vient de l'Empire romain. C'était exactement ce que faisaient les Romains, c'est qu'ils prenaient les garçons des grandes familles francs,
gaulois, n'importe quoi.
Voilà, et ils les éduquaient à Rome. Et ainsi, ils étaient sûrs qu'il y avait une certaine malléabilité ensuite
en tout cas,
de terrain.
Qu'ils avaient des gens qui pouvaient parler, qui connaissaient les deux. Et ben là, maintenant, ils disent non, on ne veut plus de ça parce que maintenant...
C'est
idiot parce qu'en plus, ça veut dire
ça,
que...
Ça, c'est un privilège impérial pour le coup.
Oui, c'est un truc complètement idiot.
Bah, c'est pas grave, les gens iront à Imperial College.
Mais ils iront à l'Imperial College,
iront à Londres.
Ils iront au Canada. Regarde, ton frère a des enfants dans cette merveilleuse école qui s'appelle... Shanigan, qui est dans l'île de Vancouver, là, qui est une école canadienne, qui est une merveille.
Mais ça fait que les undergrads.
Mais pour les undergrads, tu vas pas aller envoyer tes enfants à Exeter. Si derrière ils sont pas pris à Harvard.
Tu fais un parcours.
Donc.
Soit tu fais Eton, Cambridge, Oxford, ouais. Soit tu fais... Bah, du coup, ils vont peut-être monter des universités aussi.
Ils en ont déjà au Canada. Ouais. Ils ont déjà trois ou quatre très grandes universités. Donc au Canada, ça va faire bonne affaire. Imperial College, bien sûr, ça va faire leur affaire. Mais c'est complètement idiot parce que c'est destructif de ce qui fait ta force, c'est-à-dire... ta puissance civilisationnelle, tu vois.
Je trouve ça idiot, effectivement. J'ai trouvé aussi que le fait de s'attaquer aux universités était...
Alors, tu peux t'attaquer à Harvard, mais tu t'attaques pas, parce qu'à Harvard, en effet, ils ont des trucs...
Mais tu t'attaques à la sociologie. Tu t'attaques aux sciences molles.
En tout cas, tu dis pas à Harvard, c'est maintenant moi qui vais choisir les étudiants qui veulent aller chez vous. Ça devient de plus en plus, on a l'impression, une espèce de...
En tout cas, c'est brouillon. Hein.
D'abord, c'est brouillon, ça fait l'effet du gars, si tu veux, qui n'a pas réussi à rentrer à Harvard et qui se paye Harvard, tu vois.
Ou alors, ils n'ont pas pris son fils.
Non, je ne crois pas qu'il ait voulu, le petit, mais enfin, on l'aurait su. Peut-être ils n'ont pas voulu prendre son fils, mais... Donc, tout ça est complètement idiot. Et on a l'impression du bully dans la classe, si tu veux, qui tape sur tous ceux qui sont plus petits que lui, quoi. Et ça finit par fatiguer, quoi. Tu te dis, mais c'est...
En tout cas, ça donne pas envie d'être son ami.
Non, ça donne pas envie de son ami. Et tu te dis, et prends les Japonais. Les Japonais, ils ont négocié avec Trump. Ils n'étaient pas contents, mais enfin, ils ont accepté les termes qu'on leur a posés il y a 5 ans. 6 ans. Et maintenant, il revient en disant, non, on change.
Alors que le cochon qui s'en dédie, tu peux pas avec les Japonais.
Tu peux pas avec les Japonais, tu te dis, bon, j'ai signé un accord, je suis tranquille maintenant, je peux investir, mais si d'un seul coup, tu changes à nouveau les termes de l'accord, pourquoi faire des accords si tu les changes tous les... Si les traités, c'est des chiffons de papier, c'est pas une bonne idée. Donc, alors... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule chose qu'on puisse avoir aux États-Unis, c'est quand même le fait qu'ils soient indépendants énergétiquement. Donc s'il y avait un pet sur l'énergie dans le monde, ils produisent 12 millions de barils par jour, donc ils sont indépendants, etc. Et il est probable que leur valeur énergétique monterait beaucoup. Pour réfléchir, si j'ose dire, comme j'ai toujours réfléchi, il y a deux sources à la valeur. Tu as la valeur rareté, tu sais, l'or, les valeurs pétrolières, ce qu'il y a dans le sol et tout, et la valeur efficacité, c'est la technologie, les inventions, etc. Donc c'est les deux sources. Eh bien, tout ce qu'est en train de faire Trump, c'est de t'amener aux États-Unis à investir dans les valeurs de rareté qui n'ont rien à voir avec le gouvernement américain, quoi. Donc ça veut dire, si vous voulez avoir quelque chose aux États-Unis, il est plutôt Exxon, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que Exxon, c'est un pouvoir, puis ils ont des trucs partout, ils sont indépendants, et puis... ou mobile, ou bien les deux d'ailleurs, ou peut-être Total d'ailleurs, parce que c'est un peu pareil, et ça rapporte 7%. Donc, pour moi, c'est un peu un déchirement, parce que j'aime beaucoup les États-Unis, puis j'avais mis un certain espoir dans Trump, et il est en train d'aller vers la droite la plus bête.
Alors, c'est marrant parce que je parlais avec ma sœur qui habite aux États-Unis et qui a donc des amis aux États-Unis. Et il paraît que ce qui se passe au niveau de l'immigration aussi est complètement idiot. Alors, c'est une chose de renvoyer des gens qui seraient rentrés sur le territoire illégalement. Mais là, ils sont en train de renvoyer des gens qui sont des architectes qui étaient sur le point d'obtenir une carte verte ou des gens qui avaient des business qui aussi... venaient d'Afrique du Sud ou c'est-à-dire des gens qui sont des cols blancs.
Oui.
Et c'était pas vraiment l'idée dans l'immigration. Aux États-Unis, ils ont toujours eu justement cette appétence pour faire venir des gens qui créaient du business. Là, on parle pas d'un type qui serait le proverbial plombier polonais qui vit.
Bon. Alors, il est possible qu'un type qui commence ses études aux États-Unis soit resté ensuite et puis ait pas fait. Enfin, j'en sais rien.
Non, là, en l'occurrence, les deux amis de Pauline, c'était des gens qui étaient en L'un était rentré pour voir lors d'un deuil sa famille en Nouvelle-Zélande. Et au retour, on lui a dit non, votre visa n'est plus bon. Il dit mais j'ai un business sur place, j'ai 5 employés et voici mon chiffre d'affaires, mon K9, machin. Il dit non, vous rentrez plus. Il dit mais enfin quand même, extension de mon visa ou quoi? Bah non. Et l'autre, pareil, un Anglais qui avait pareil un business avec 10 employés. Et on leur a dit
ça, on voit très bien l'arrivée des petits hommes gris à partir du moment. Il n'y a pas d'ordre qui a été donné, mais comme il y a beaucoup de gens dans les douanes ou n'importe quoi, il y en a certains, j'imagine, qui sont aussi bêtes. Il y a même moins de gens crétins que partout ailleurs. Ils ont peut-être aussi pris sur eux de ne plus renouveler d'un certain nombre de trucs qui auraient été parfaitement raisonnables. Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement parce que c'est une façon de se payer les étrangers qui avaient des salaires supérieurs aux leurs ou j'en sais rien. Donc ça fait monter aussi tous les petits chefs capots, tu vois, tous les petits... c'est-à-dire
oui, mais ça met aussi une ambiance absolument déplorable dans un pays qui a toujours été, normalement, au contraire, pro-énergie et laisser venir...
Laisser venir à moi tous les pauvres, tous les... C'est ce qu'ils ont toujours dit.
En ayant un parcours légitime, on pouvait acquérir la carte verte.
Tu l'avais d'ailleurs aussi, donc tu ne pouvais pas rester. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que je ne comprends pas exactement ce qui se passe aux États-Unis domaine, parce qu'il y avait deux trucs qui étaient complètement différents. L'immigration illégale, là on voit tout le monde, ceux qui sont arrivés, bon. Et l'immigration légale, là il n'y a rien à dire, quoi. C'est-à-dire il y a des procédures qui doivent être respectées. Et si d'un seul coup on commence à arrêter tout le monde sous prétexte qu'il est étranger, alors c'est plus du tout la même chose. À ce moment-là, ça devient du racisme, quoi. C'est du vous n'êtes pas né ici, donc.
Et j'ai l'impression que c'est un peu le biais qu'est en train de prendre.
Quand tu commences à faire des guerres commerciales, tu te retrouves assez rapidement en train de faire des guerres administratives contre les étrangers. Tu vois,
sans compter qu'il y a des États, là en ce moment, donc en Californie, ils ont un vrai problème parce qu'il y a eu ces feux autour de Los Angeles. Et il faut tout reconstruire. Et donc, il y a une guerre autour des matériaux, il y a une guerre autour de la main-d'œuvre. À côté de ça, ils disent non, on ne veut pas de main-d'œuvre étrangère. Et les
et
gens.
Et la quasi-totalité des tuyaux, des pipes, des robinets, etc., est faite en Chine. Donc, il n'y a plus de producteurs de tout ça aux États-Unis. Donc, s'ils veulent rebâtir en Los Angeles et qu'ils ne peuvent plus importer les trucs de Chine, bon, ils vont peut-être en importer, il y en a peut-être quelques-uns qui restent au Japon ou j'en sais rien. Mais c'est pas du tout. Donc tout ça est. Ça partait bien. Et puis quelque part, depuis qu'il a reçu cette énorme claque sur les marchés obligataires,
il y a deux, trois mois,
oui, il a pris, ça devait être en, quelque part en mars, je pense, ou en avril peut-être. Il a pris une espèce de claque qui a dû heurter son ego. Et ben, il est en train d'essayer d'aller vers la droite la plus bête.
Tu sais, c'est marrant parce que je me souviens très bien, à l'époque, je t'avais dit, mais qu'est-ce qu'il a en ce moment, Trump ? Il est de plus en plus orange. Et entre-temps, j'ai vu un reportage sur sa maquilleuse qui dit que quand il est stressé, il met de l'autobronzant. Et donc, en réalité, plus il est orange, plus il est stressé. Parce que ça veut dire que dans la journée, il s'est mis 5 à 6 couches d'autobronzant. Et c'est ça
qui. Pour avoir l'air en bonne santé.
Pour avoir l'air en bonne santé. Donc, plus il est stressé.
C'est comme la dame qui met, comment vous mettez ça, des produits dans les bougeaux. Là, ça s'appelle des.
Du fard à joues ?
Non, pas
du
fard à joues, c'est les machins.
Ah, le botox ?
Le botox, oui. C'est... Le botox.
Et donc, plus il est stressé, plus il en rajoute. Et donc, en réalité, plus il est orange, plus ça peut te dire son niveau de stress.
Et là, ben, il était. Donc, en tout cas, il me semble, mais. Alors, comme je me souviens de ce qu'a dit Keynes, quand les choses changent, je change. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Il est possible que cette analyse ne soit pas la bonne. Il est possible que je me trompe, que de revanche, ça va revenir en pleine forme, que. Et qu'on reparte faire des trucs un peu moins cons. Mais quand je vois ce qui se passe en Ukraine, quand je vois ce qui se passe avec Taïwan qui ressort, quand je vois, je me dis ça y est, il y a tous les.
Moi, alors, ça m'a fait très peur ce que j'ai vu hier quand on a vu ces offensives là avec les. Parce que très honnêtement, dans ma tête, je m'étais dit bon, il a mis un coup de poing sur la table, tout va se calmer à Istanbul et on va peut-être.
Négocier.
Ils vont négocier. Puis
mais il est possible que la CIA.
Ils vont garder cette ouverture vers la mer.
Il est possible que la CIA ait organisé ça pour qu'Istanbul.
Bah, évidemment, mais dans ces cas-là, où va-t-on ? Où va-t-on ? Nous, en Europe, parce que c'est quand même sur notre sol. Eux, ils s'en foutent, c'est là-bas. Mais moi, tous les jours, je me dis, bon, Poutine n'est quand même pas un crétin, il ne va pas nous envoyer une arme atomique.
Mais t'as vu que les Allemands ont décidé qu'ils pouvaient vendre maintenant des missiles qui atteindraient Moscou, des Taurus, des missiles allemands. Mais s'ils vendent ça aux Ukrainiens, et que les Ukrainiens en balancent un sur Moscou... on peut dire qu'en toute logique, les Russes seraient autorisés à aller détruire l'usine qui fait ça en Allemagne.
Moi, quand je vois ça, honnêtement, je suis à deux doigts de remplir des trucs pour le Canada. Hein. Ça
je suis d'accord avec toi. Non, mais on sent bien que il y a une poussée vers la guerre qui est organisée par les États profonds européens et américains pour essayer de garder leur pouvoir, quoi.
Ça fait très peur.
Ça fait très peur, parce qu'on sent bien, quand tu vois que ce... D'ailleurs, il doit y avoir un mot d'ordre qui a été donné, parce que tu vois ce grand crétin de Macron qui d'un seul coup se met à parler de Taïwan.
J'ai vu ça, et il y avait, comment il s'appelle...
C'est-à-dire qu'il y a des ordres qui ont été donnés, qu'on commence à parler de Taïwan.
Mais oui. Il va falloir que je retrouve le papier, que je vous le remette sur pourquoi c'est idiot de parler de Taïwan. Il y a clairement des petits hommes gris qui se sont passés des mémos.
C'est tout à fait ça. Et ce que les échos que j'ai, puisque on savait qu'on a des gens qui suivent la Chine, puis il y en a qui sont très proches des administrations américaines qui... De gens de chez nous, mais qui travaillent avec le département d'État, etc. Les gars de Dragonomics, les patrons de Dragonomics, ils sont à Washington tout le temps. Et ils me disent qu'il y a une sinophobie qui monte aux États-Unis, c'est-à-dire que on nous est en train de présenter la population américaine comme si, si tu veux, M. Xi mangeait deux petits bébés chaque matin, quoi. C'est Alors que je
pouvais tuer. Mais déjà, Trump
avait déjà un peu ça.
Encore une fois, souviens-toi, quand le Covid a commencé, au début, il appelait ça la maladie chinoise et il entretenait vraiment cette sinophobie. Et je pense que quelque part en lui, il l'a.
C'est-à-dire que les États-Unis, apparemment, je sais pas, ils ont besoin d'un ennemi.
Oui.
Et cet ennemi, il est décrit toujours dans les termes les plus affreux.
Pendant longtemps, ils ont eu le Japon, puisqu'il y avait eu la guerre. Donc toute la partie pacifique, quand tu étais asiatique, ça se passait pas très bien pour toi quand tu allais en Californie à l'époque.
Hein. Non, mais il y avait ça. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est quand je regarde cette espèce de sinophobie extraordinaire, c'est que les gens me disent c'est un pays communiste abominable, la Chine. Je leur dis oui, oui. Calmez-vous un peu, parce que moi j'ai vu monter le niveau de vie de tout le monde en Chine, etc. Bon. Mais surtout, je leur dis, quand j'analyse la Chine en termes politiques, je me dis, c'est Pinochet. Mais c'est pas Pol Pot, quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est Pinochet. Bon, c'est un régime extrêmement autoritaire. Mais voilà, quoi. Bon, je dis pas du bien de Pinochet, mais il y avait une différence entre Pinochet et Staline, quoi, si tu vois ce que je veux dire, ou si Pinochet et Mao. Pinochet, il a fait quelques dizaines de milliers de morts, et l'autre, ils en ont fait des centaines de millions, donc c'est pas du tout pareil. Et puis c'est pas le même principe. Le totalitarisme, c'est pas l'autoritarisme. Être totalitaire, c'est pas être autoritaire. Donc, je me dis...
Les deux sont pas bien, attention, on vous dit pas. On dit que c'est juste une graduation dans l'horreur.
Oui, oui. Voilà. Et quand même, le totalitarisme, c'est ce qu'on a inventé le siècle précédent. C'est pas une différence de nature dans l'autoritarisme. C'est une différence de nature dans la façon dont vous conservez, dont vous permettez aux individus d'exister. Vous n'avez pas de vie individuelle. Parce que dans un régime totalitaire, je veux dire autoritaire, vous êtes là, si vous ne faites pas de bruit, on vous fout la paix, quoi. Donc, c'était toutes les études de Hannah Arendt et tout, c'est de montrer que le totalitarisme, c'était vraiment quelque chose d'à part, quoi. Donc, ils essayent de nous présenter la Chine comme quelque chose d'à part. Alors que la Chine d'aujourd'hui, c'est la Chine de toujours. Il y avait un pouvoir autoritaire et centralisé, qui essayait de se débrouiller pour que la population bouffe. Donc, cette espèce de... je ne veux pas aller continuer à ratiociner, mais dire simplement, avoir des actifs, ce que j'appelle des contrats, en France, en Angleterre et aux États-Unis... Il faut être fou comme un lapin. Avoir les monnaies de ces trois pays, il faut être fou comme un lapin. Et là, on peut faire un petit développement. L'Angleterre, elle a sa monnaie, si ça va mal, la livre s'écroule.
Ça va pas très bien en ce moment, je pense qu'ils vont devoir écrouler la livre. Là, je regardais il y a deux jours, c'est pas fou. Hein.
C'est pas fou. Les États-Unis, ça va pas bien, ils peuvent laisser s'écrouler le dollar. La France, ça va pas bien. Mais est-ce qu'on... Mais on est dans l'euro. Donc, on n'a pas la valve d'ajustement.
Non, on en parlait il y a encore trois semaines. À la différence d'avant-guerre ou de ces moments où on pouvait soit laisser filer la monnaie, soit l'écraser, là, on peut littéralement rien faire.
Veut dire que c'est si vraiment ça va mal en France, c'est le cœur, c'est les entreprises françaises qui vont être, dont la rentabilité va être la variable d'ajustement. C'est ce que dit encore une fois ce bon toit-il. Donc, on peut protéger les entreprises américaines, les entreprises anglaises en laissant s'écrouler la monnaie, parce que à ce moment-là, c'est la consommation qui baisse, mais il y a les exportations qui marchent. Là, c'est en France, ça va être que les entreprises qui produisent en France qui vont prendre la claque. Mais ça va être monstrueux.
C'est déjà le cas. Et sans compter que on a vu là que je crois que c'était Moody's, oui, qui a sorti sa notation de la France, qu'elle n'a pas dégradée, mais il y en a un qui va tirer un jour et qui va dégrader la note. On sait très bien pourquoi il ne dégrade pas la note de la France, parce que sinon la France ne sera plus qualifiée avec une note qui sera en dessous de AA moins pour être au portefeuille de beaucoup de
compagnies d'assurance,
fonds de pension et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y aura, dans ces cas-là, une attaque sur la dette. La dette française...
Les gens n'embrassent que leur dette soit remboursée.
Voilà. Et on n'a pas le moindre sou pour se permettre. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire une panique,
si j'essaie de réfléchir,
pas possible sur la dette.
je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer pour l'Angleterre? La livre va se péter la gueule. Bon, qu'est-ce qui va se passer des États-Unis? Le dollar va se péter la gueule. Qu'est-ce qui va se passer en France? Le marché obligataire français va se péter la gueule. C'est la seule variable d'ajustement.
C'est la seule variable d'ajustement.
C'est-à-dire que le spread va se creuser de façon extraordinaire entre la France et les pays normaux en Europe. Parce que c'est le seul endroit où ça puisse se passer. Donc, il y a une crise de change qui arrive sur le dollar et sur la livre, et il y a une crise du marché obligataire qui arrive chez nous. C'est les conclusions que je tire de ce papier. C'est pas gai, hein?
Non.
Mais de toute façon, si je veux dire, c'est bien pour ça qu'on a créé l'Université de l'épargne, hein, c'est parce qu'on se doutait que c'était pas impossible.
Et par ailleurs, il est d'autant plus possible, étant donné que l'État français ne se réforme pas, qu'ils aient besoin, pour leur trésorerie, d'aller à un instant T chercher dans des fonds courants que représentent les assurances vie ou ainsi de suite, en disant, écoutez, c'est... Ou alors qu'il y ait des obligations forcées.
Oui, que vous soyez obligé de souscrire des obligations. Mais encore une fois, il faut faire attention, il y a... Mettons 2000 milliards de dollars dans d'euros, pardon, 2000 milliards d'euros dans les assurances vie. Mais elles sont déjà investies, ceux-là.
Bien sûr. Ah, bien sûr.
C'est-à-dire que, on va avoir besoin de 400 milliards de plus, au moins.
Une souscription forcée, ou alors, aller chercher dans les comptes courants. Qui sont pas comptabilisés, ceux-là.
Ceux-là, ils sont pas investis. Mais en même temps, ici, ils sont investis par les banques qui ont prêté cet argent aux gars.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de ce pognon qui vont venir chercher, qui est déjà investi, donc ils devront vendre. Imagine que, je sais pas, j'ai acheté ce bureau, la banque m'a prêté de l'argent. Et puis, qu'ils forcent la banque à souscrire à des obligations. Ils vont me dire, monsieur, vous remboursez le bureau maintenant, quoi.
Ouais, mais toi, t'as pas la liquidité.
J'ai pas le premier sou, vous êtes gentil. Moi, j'étais pas. Donc, ça veut dire, il va falloir qu'il y ait des ventes cassées dans l'immobilier partout.
Pour trouver des liquidités,
Des liquidités, mais si à un seul coup, t'as de l'argent qui est caché quelque part, tu le fais sortir pour acheter le bureau, ce qui n'est pas mon cas, tu te dis, d'où il venait cet argent, monsieur?
Oui, ça rend d'autant que... Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que ça peut faire ressortir des bas de l'année, ainsi de suite. Mais enfin, tout le monde n'a pas autant de liquidités en or ou des choses comme ça, ou des... C'est des
donc,
petits montants.
Voilà, donc, c'est pas des bonnes nouvelles, mais je voulais que vous soyez au courant, parce qu'il est possible que cette analyse soit pas la bonne. Mais je voulais pas que vous ayez l'impression que je restais avec une opinion favorable de ce qui se passait aux États-Unis.
Parce que c'est plus le cas.
Parce que c'est plus le cas. Voilà. Je peux plus, en toute honnêteté, cautionner ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. C'est fini.
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense.
Bon, exactement. Voilà. C'est bien triste. Et j'en suis le premier désolé, mais voilà, c'est comme ça.
Et voilà. Donc.
Donc quand le Trump est arrivé, il y a des gens qui m'ont posé va-t-il réussir ? J'ai dit, je ne sais pas s'il va réussir, mais il n'est pas certain qu'il échoue.
Et là, s'il continue comme ça, on est certain qu'il échoue.
Voilà.
Voilà, ça c'est...
C'est Mitterrand en 81.
Je rigole parce que c'est Onfray qui dit toujours le virage libéral de Mitterrand en 83. Et je crois que certains voient le libéralisme où ils veulent. Hein, mais... le virage libéral. Donc là, c'est... Voilà.
Je me demande de quoi bloquer les prix, bloquer les taux de change, bloquer le... Ouais, c'est libéral, mais ouais, chacun...
Je chacun, voilà, chacun voit midi à sa porte, que veux-tu.
Midi à sa porte, oui. Je crois quand même. Monsieur Onfray devrait lire Bastiat.
Il l'a lu. Je crois qu'il a fait un bouquin avec...
Sur Bastiat.
Oui, avec, tu sais, le petit libéral qui parlait beaucoup, là...
Koenig
le... Oui.
Ah bon, c'est blague.
La route de Bastiat. Je crois qu'ils ont fait un bouquin commun sur Bastiat ensemble. Mais oui. Un vague souvenir, hein, ça a 10 ans.
Bon,
à l'époque où Koenig
en tout cas, il l'a pas bien lu.
Non, mais tu sais, je crois que quand certaines personnes ont... C'est un peu comme les avocats, ont des idées préconçues et lisent les choses pour faire rentrer dans leurs idées.
Oui, d'ailleurs, oui.
Tu vois, et c'est très différent que de lire quelque chose avec un livre en étant ouvert, en disant, tiens, ça va peut-être influencer la façon... Non, il y a des gens qui ont des seuils...
Qui développent des idées pour prouver une idée et une certitude qu'ils avaient avant.
Voilà.
Oui, ça, c'est... Cela, ils se ruinent très vite en bourse.
Et oui, mais parce que tu ne laisses pas l'effet
te...
Là, il faut, c'est l'inverse. Il faut que tout rentre dans ton cône. Voilà, c'est les jouets Fisher-Price. Tu as soit un rond, soit... Voilà, et donc, tu peux taper jusqu'à temps... Parfois, ça rentre, et puis parfois, voilà, sinon, il change.
Il paraît que les corbeaux le font très bien, les Fisher-Price.
Ah oui ?
Les corbeaux, oui, c'est toujours les Fisher-Price, et les étoiles, les ronds, ils les mettent dans les ronds.
Tu sais pourquoi je sais qu'ils sont intelligents ? Ils peuvent conserver une rancune pour quelqu'un pendant 5 ans,
ouais.
Un corbeau. Ouais. Et ils passent même l'information à d'autres en disant « celui-là, on ne l'aime pas
». Non, mais les corbeaux, c'est des animaux très astucieux. Je leur parle beaucoup, puisqu'on a des corbeaux dans notre maison à Avignon, là-bas, qui sont là depuis la nuit des temps. Et ils sont là bien avant moi, ils seront là bien après moi. Et donc, je fais des grandes conversations avec les corbeaux qui m'écoutent avec beaucoup d'intérêt.
Oui, parce que très souvent, tu leur expliques qu'il ne faut pas qu'ils restent là.
Oui.
Qu'ils se mettent de l'autre côté.
Qui viennent surtout vers 5-6 heures du soir quand on est tranquille, pas vers du bruit juste au-dessus de nous.
Voilà, tu peux aller faire du bruit
là-bas.
Là-bas.
Et ils comprennent.
Ils vont faire du bruit là-bas, ils sont gentils. Voilà, bon, bah écoutez, en tout cas,
c'est une mission importante parce que j'ai quand même été... J'ai beaucoup aimé Trump, et je trouvais ce qu'il disait intéressant, parce qu'il avait cette capacité à mettre en fureur tous les types que je déteste. Mais
ce qui était important.
Ça m'a soutenu pendant des années.
Mais là, on est déçus. Là, on a du mal. Voilà. Bon, ben, ça ne peut pas tous être des gagnants.
Non, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique m'aura déçu.
En fait, c'est plutôt l'inverse qui aurait été surprenant. On trouvait qu'il ne nous déçoive pas.
Il ne m'a pas déçu en bien.
Ouais, voilà. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions en bas et à nous aimer sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.